et que c'était ce film-là que vous vouliez faire?
Je ne sais pas s'il y a eu un point de départ exact. Je savais que j'avais l'envie, en tout cas, de faire un film qui parle de fraternité et d'un amour fraternel très fort. Et après, il y avait l'envie, je pense, de raconter une tragédie. Et il y a eu l'idée un petit peu du concept du film qui arrivait un peu plus tard. Qui est ce concept
Alors, je vais vous laisser pitcher tout de suite votre film. Moi, je ne veux pas m'y risquer. J'ai déjà l'impression d'en avoir trop dit dans l'annonce, donc je vous laisse faire.
Ouais, bah c'est ça. C'est un film où il y a beaucoup de mystère. Du coup, c'est compliqué à pitcher. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui mélange à la fois la chronique d'été, vu qu'on suit deux jeunes adultes de 18 et 20 ans qui sont des frères pendant un été. Du coup, avec tout ce que l'été peut accompagner au niveau des premières rencontres, des sorties,
de sensualité, de l'image, de tout ça.
Et en même temps, c'est un film fantastique, vu qu'il y a un des deux frères qui a un pouvoir que je ne vais pas révéler, mais du coup, c'est voilà.
Cette idée du pouvoir, c'est vous qui l'avez trouvé ou c'est votre co-scénariste? Parce que je voulais la citer, c'est un moyen de la citer, Léa Riche.
Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Justement, c'est ce concept dont je parlais un peu qui est lié à ce pouvoir et qui est arrivé finalement assez vite quand même dans l'écriture, qui était vraiment une manière pour moi de raconter cette histoire de manière singulière, quoi.
Alors, dans notre film, il y a deux acteurs, on va les citer, Raymond et Simon Bord, c'est ça?
Oui.
Et on les voit aussi enfants. Alors là, ils sont interprétés par Grégory et Benjamin Luce. Ce n'est pas les Césars, mais j'essaye quand même de citer le maximum de gens. En voyant le film, on a l'impression que sans eux, le film ne se serait peut-être pas fait, ou en tout cas ne serait pas le même, qu'il y a eu quelque chose de magique entre eux et vous. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est plus que ça?
Totalement. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, ça serait pas du tout le même film. En tout cas, je pense que le film aurait existé, mais d'une manière totalement différente. Parce que moi, c'est ce que je cherche, en tout cas, quand je fais des films, c'est de faire des rencontres et de trouver des personnalités avec lesquelles je peux m'inspirer et aussi faire mon film avec eux. C'est-à-dire, c'est un échange des deux côtés. Et il se trouve que Simon et Raymond Bord, déjà de base, le fait que ça soit des vrais frères, de toute façon, amène quelque chose dans le film que j'aurais jamais pu faire avec des acteurs qui ne soient pas frères. Parce que tout de suite, ça amène quelque chose de documentaire et d'ultra réaliste. C'est-à-dire, je fais un film sur des frères avec des frères à l'écran, mais des frères à la vie. Du coup, il y a quelque chose. Voilà,
mais il y a quelque chose, pour prendre un exemple, au-delà du cliché en cinéma, comme Truffaut et Jean-Pierre Léo.
Bah, je sais pas.
Quelque chose d'identification, d'aussi fort que ça.
Bah, moi, je cherchais voilà, des personnalités particulières, des personnalités qui me rappelaient sûrement mon frère et moi, peut-être quelque part, mais ce qui a été fort, c'est de trouver un duo. C'est-à-dire, finalement, moi, ça me permettait de la distance aussi, de m'appuyer sur un véritable duo de frères, et du coup, de me nourrir de ce qu'ils sont, eux, en tant que frères.
Vous les avez castés comment? Alors, vous les avez castés ensemble? Vous castiez que des couples de frères?
Non, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est de se dire, déjà, de trouver une personne qui nous plaise, une autre personne qui nous plaise, de les faire matcher ensemble, c'est déjà dingue, quoi, de se dire, d'arriver à faire ça. Mais alors, de se dire, je vais trouver deux frères et que les deux vont être super pour moi, il y avait un truc de l'inimaginable. C'est-à-dire, on en avait parlé avec directrice de casting, mais ça, c'était tellement fou qu'on n'y a pas trop pensé. Et il se trouve qu'un jour, elle m'a envoyé sur Instagram le profil de Simon, qui joue Tony. Et en fait, oui, parce qu'on a fait beaucoup de casting sur Instagram, parce que c'était pendant le Covid. Moi, je fais beaucoup de casting sauvage, normalement, où on casse des jeunes dans la rue, dans la rue ou dans les lycées. On a fait beaucoup de casting dans les lycées, mais il se trouve, vu que c'était pendant le Covid, c'est-à-dire tous les jeunes masqués ou peu de personnes dans la rue, très compliqué. Et du coup, on est beaucoup passé par Instagram et c'est comme ça qu'on est tombé sur le compte de Simon et on a vu qu'il avait un frère. On s'est dit, pourquoi pas les faire venir tous les deux, quoi.
Et alors, tous les deux, ils font un sport dont je serais incapable de parler.
Voilà, en fait,
il y a un art martial chinois, je crois.
C'est ça, c'est du wushu. En vrai, vous ne suiviez pas les compétitions, pas du tout.
Je pensais que vous les connaissiez comme ça.
Ah non, pas du tout. Moi, je connaissais pas du tout cette pratique. En fait, le wushu, c'est du kung-fu. Hein. Mais voilà, et eux, ils en faisaient d'une manière artistique. C'est un kung-fu artistique qu'ils font où ils ont un combat qu'ils font l'un contre l'autre, qu'ils répètent énormément et qui est un duel où ils s'affrontent avec une mise à mort à la fin. Et du coup, c'est du Tao, c'est une pratique du wushu artistique, et c'est quelque chose qu'ils ont fait toute leur vie depuis qu'ils sont enfants.
Ils ont à peine 20 ans, non?
C'est ça, mais vu qu'ils ont commencé à 7 ans, ils sont allés au championnat du monde alors qu'ils étaient encore mineurs. Il y a quelque chose de très, très impressionnant dans leur pratique du sport et qui a vraiment résonné aussi avec mon film et qui m'a permis aussi d'adapter le film pour eux à ce niveau-là.
Ils ont été durs à convaincre parce qu'après tout, ils étaient peut-être juste envie de faire du wushu. Ils se sont dit le cinéma, son film, les gens qui m'en foutent. Quoi. Non, mais c'est vrai, puis tout le monde n'a peut-être pas envie de faire du cinéma.
Bien sûr. C'est... Bah, après, c'est tout le truc de moi d'amener des gens qui ne sont pas de ce monde dans ce monde et d'essayer de les accompagner au mieux là-dedans. Mais je pense que vu qu'ils arrivaient finalement quelque part un peu à la fin de leur carrière, qu'ils avaient déjà fait, en fait, même s'ils étaient très jeunes, il y avait l'envie de faire autre chose. Mais c'est vrai qu'au début, je pense qu'eux le racontent, mais qu'ils sont arrivés et qu'ils ne s'attendaient pas du tout à un vrai casting, un vrai truc. Et je pense qu'ils ont vraiment compris au fur et à mesure, jusqu'à chaque étape permettait la compréhension de savoir qu'ils allaient faire un film. Et du coup, ça leur donnait de l'envie.
Ce qui vous a intéressé, pardon, c'est leur manière de bouger, parce que c'est une manière de bouger très particulière.
C'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est ce qui est très beau, c'est que rien que dans leur démarche, il y a un truc de sportif, mais de danseur presque, et qui racontait aussi quelque chose de leur personnalité, quelque chose de très fort, et qui pour moi était plus fort que n'importe quel dialogue, n'importe quelle chose que j'allais pouvoir faire artificiellement. C'est-à-dire que rien que dans leur démarche, il y avait tout des personnages, quoi.
Enfin, on sait tous, je sais pas si les gens qui nous écoutent, mais on s'est tous fait filmer une fois, et quand on se voit, on a pas l'impression d'être naturel. Ouais. Est-ce que tout de suite on réussit? Comment on arrive à faire que les gens devant une caméra soient comme dans la vraie vie? C'est ce qui est le plus dur.
C'est très dur. C'est-à-dire que moi, quand je les caste, c'est loin d'être les meilleurs au niveau du jeu que j'ai casté. Je les ai pas tous vus, moi, mais on a vu plus de 1500 jeunes pendant un an et demi de casting.
Oui. Voilà. Vous êtes un peu perfectionniste.
Un petit peu. Ouais. Et du coup, quand on les.
Je suis content de pas être votre directeur de production.
C'est ça. C'est tout un enjeu le casting, mais comme tout dans un film. Mais du coup, quand on les rencontre, c'est loin d'être les meilleurs au jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de
donc c'est un pari.
Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que en fait, j'ai beaucoup confiance dans le travail. Et je sais que j'avais senti un truc chez eux tout de suite. Je me suis dit, il y a quelque chose en eux et que je vais réussir à trouver. Mais par contre, on va devoir bosser. Et du coup, il se trouve qu'il y a 7 mois de répétition où on se voit une fois par semaine pour bosser ensemble. Et
sur quoi? Sur leur déplacement? Sur leur rapport? Sur leur jeu? Sur leur...
Déjà, il y a de la confiance. C'est-à-dire que le premier truc, c'est on se voit et on discute. Ça va être, on discute pendant 4 heures, ils me racontent leur vie, on échange. J'essaye d'instaurer un truc de confiance et d'échange entre nous, qu'on devienne proches, en fait. Ça, c'est une des choses les plus importantes, finalement, dans les répétitions, plus que la répétition pure. Et après, je les fais bosser les scènes, je leur fais beaucoup improviser. Ce qui me permet aussi de moi de réécrire le scénario et l'adapter pour eux, les dialogues, pour que ça soit au plus proche d'eux. J'ai toute une part de réécriture comme ça.
Un peu comme au théâtre, on travaille sur le plateau.
C'est ça, ouais. Ouais. Et ça, moi, c'est un truc. En fait, ce qu'il faut se dire avec des acteurs comme ça, des acteurs non professionnels, on s'est appelé comme ça, ou acteurs amateurs, c'est que si tu les mets sur un plateau, à part si c'est pour jouer leur rôle exact, c'est-à-dire il n'y a aucune différence avec ce qu'ils sont dans la vie et ce qu'ils vont jouer, où là, ils peuvent s'en sortir, sinon ça sera toujours catastrophique, je pense. C'est-à-dire qu'il y a besoin de tout ce travail. Et nous, on a vraiment bossé pour arriver à un truc vraiment naturel. Ouais.
Alors, dans le film, il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Mayra Villena. Alors, elle, c'est un casting sauvage?
Alors, elle, c'est aussi Instagram, mais d'une manière aussi intéressante. C'est que j'étais tombé sur son compte Instagram et en fait, elle faisait de la peinture. Elle en fait toujours. Et j'étais tombé amoureux, en fait, de ses toiles, quoi, que je trouvais vraiment magnifiques. Et on s'est rencontrés. Enfin, elle a rencontré d'abord la directrice de casting et c'était une évidence. Et qu'ensuite, même sa peinture a apparu dans le film. Voilà, c'est une artiste un petit peu dans le film, et ça, elle a vraiment nourri le personnage à la fond.
Mais alors, elle s'appelle Cassandre.
Ouais.
Vous êtes obsédé par la mythologie. Vous aviez envie de donner une dimension mythologique, oui, parce que...
Oui, totalement. Pas obsédé, mais c'est un socle solide pour moi. C'est-à-dire, c'est aussi s'appuyer sur des choses extrêmement classiques et que voilà, des socles très classiques, universels, et là-dedans, pouvoir développer mon univers aussi dans des choses balisées quelque part.
Vous auriez pu reprendre un mythe qui existait déjà, non?
C'est vrai. Mais ouais, celui-là m'est venu, mais pourquoi pas, finalement. Mais même, par exemple, si on regarde la structure du film de ce trio amoureux, qui est finalement quelque chose d'assez classique dans la tragédie, voilà, si on regarde les tragédies de Racine ou quoi, il y a choses comme ça.
Moi, ce que j'ai aimé dans votre film, c'est que c'est un premier film et on a l'impression que c'est pas un film que la génération aurait pu faire. Dans l'histoire du cinéma, on a l'impression que chaque génération réinterprète un peu les ce qu'avait fait celle d'avant. Là, je vois pas à quel cinéaste vous pouvez vous référer. Moi, j'avais envie de vous demander quels sont ceux que vous aimez, ceux qui vous inspirent, ceux qui vous ont donné envie d'être cinéaste.
Ouais, bah si on parle en France ou de manière générale.
Vous voulez, on est ouvert ici.
Ouais. Non, parce que justement, c'est tout le truc de. Moi, j'ai eu beaucoup de cinéastes qui ont énormément compté pour moi dans ma cinéphilie. J'ai commencé...
On a l'impression que vous êtes plus nourri de cinéma asiatique, par exemple.
Cinéma asiatique, il y en a beaucoup, mais aussi beaucoup de cinéma américain. C'est-à-dire, moi, je tombe vraiment amoureux du cinéma. Enfin, j'ai toujours eu cet amour du cinéma, mais je veux dire, quand j'ai commencé à me construire ma propre cinéphilie, c'était le cinéma de Gus Van Sant, de Larry Clark, de Greg Araki, des cinéastes indépendants américains qui ont beaucoup filmé l'adolescence.
Ouais, c'est ça, c'est le cinéaste de l'adolescence.
C'est ça que j'aimais beaucoup dans le traitement de la jeunesse, dans la mise en scène, les couleurs, de ce truc de créer des figures de jeunes un peu éternels comme ça, qui sont restés en moi un peu toute ma vie. Et ça, il y avait cette envie de reproduire ça dans ce film. Et après, même dans du cinéma américain extrêmement classique, Elia Kazan, par exemple, c'est un cinéaste que j'ai toujours...
L'Est d'Éden, par exemple.
Par exemple, oui.
Il y a deux frères, là aussi, il y a deux frères.
Oui, c'est ça. Et même,
on n'en sort pas des frères.
Il y a ça, et même, par exemple, un film comme La fureur de vivre, qui est très classique américain, mais pour moi, qui a joué, je pense, beaucoup de choses en moi. Ça a été de créer cette figure de l'adolescent...
L'adolescent rebelle.
Rebelle, mais qui devient un mythe, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est devenu tellement culte que le film lui-même est un mythe. Et ça, je trouve ça beau, de créer des figures comme ça de jeunesse tellement puissantes, et aussi une manière de filmer la virilité et le caractère tragique de cette virilité, de ces garçons. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et après, j'ai plein de références.
Vous citez pas du tout des fantastiques français, Franju, Tourneur, voire Cocteau, le Cocteau des enfants terribles.
Ben non, parce que c'est des références que j'ai pas, dont on m'a parlé, mais que Cocteau, j'ai jamais trop regardé, même si j'ai très très envie. Par contre, il y a des cinéastes de fantastiques que j'adore, comme Carpenter, qui est un cinéaste qui a beaucoup compté pour moi, ou même Shyamalan. Ça, c'est un cinéaste que j'aime énormément. Et moi, je rentre dans le cinéma aussi avec... je pense que ça joue quelque part, mais moi, mon cinéaste préféré quand je suis enfant, c'était Tim Burton. Et c'est Tim Burton toujours, quoi. Ça a été...
Tout ?
Ça a été...
Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il fatigue un peu.
Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai pas cet amour fou, mais quand j'étais enfant, c'était vraiment mon dieu, Tim Burton.
C'est lequel ? C'est celui de L'étrange Noël de Mr. Jack ?
Ouais,
c'est celui de...
Même, je sais pas, jusqu'à Beetlejuice, bien sûr, mais même Sleepy Hollow. Enfin, c'est un film que j'adore par-dessus tout. Et tout. Ouais, j'ai vraiment été très marqué par Édouard Romain d'Argent. C'est un film qui m'a...
Sublime. Voilà. Et encore, c'est presque une figure de l'adolescence.
Bah oui, Edouard, non, mais je pense qu'il y a de ça aussi, et d'amener le fantastique là-dedans pour raconter quelque chose du conte et en même temps de... Voilà.
Ce qui est intéressant dans votre film aussi, c'est que le fantastique... Peut-être, contrairement d'ailleurs à Tim Burton que vous aimez, c'est que le fantastique, vous, dans votre film, il émerge dans un univers très quotidien. Finalement, si on ne le sait pas, tout semble presque normal. Ce n'est cette image très... Il y a un traitement d'image qui est très particulier. J'ai noté, parce que moi, je ne me rappellerai pas comment ça s'appelle, vous faites du scope anamorphique.
Ouais.
On va peut-être pas rentrer dans la technique, mais je trouve que le fantastique est encore plus intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'aime dans le fantastique, c'est quand il est dans quelque chose de très quotidien. Ça, c'est vous aussi ? Ouais.
Bah, c'est ça. C'est qu'il y avait moi, je voulais faire un film aussi sur une sorte de banalité, quoi. C'est-à-dire que rien de ce qui va se passer dans le film, de ce que vont évoquer les personnages, ce dont ils vont parler pendant tout le film, aura de lien avec cette espèce d'immense, la grande histoire qui est au-dessus d'eux, et qui est l'histoire du monde, de ce tragique, de ses pouvoirs, du fantastique. Finalement, je me dis, je veux faire un film qui reste à la hauteur de ces personnages, et qui est un film qui parle d'amour, mais d'amour assez simple aussi, et de tout ça. Et je m'étais dit, je veux pas que le fantastique soit l'enjeu psychologique et dramatique du récit, mais qu'il contamine mon récit quand même. Par contre, il y avait l'envie, dans la mise en scène, c'est-à-dire on parle du scope, mais aussi dans le traitement des couleurs, des contrastes, de comment filmer ces jeunes, d'en faire des héros. Et ça, c'est pas que c'est surnaturel, mais qu'il y avait un truc dans la mise en scène, il y avait l'envie de les élever, d'en faire des héros de cinéma, en tout cas.
Et puis eux, ils ont pour le coup, comme je disais, ils ont un physique, ils ont un corps de héros, quoi. Ils sont incroyables quand on les voit. Ils sont presque irréels quand on les voit tous les deux.
Et on parlait de mythologie, mais moi j'avais des images de statues grecques, de choses comme ça, de les mettre en scène.
Royan, vous en faites une ville fantastique.
Ah bah totalement. Moi, Royan, je m'étais dit, j'en ferais un décor de cinéma. Et vraiment quelque chose de... Voilà, mais même si on voit la scène où ils arrivent au début en bateau... Ça, c'est juste le petit bac de Royan qui fait d'aller-retour, mais je m'étais dit, on va le filmer et ça va être le bateau du retour des héros, quoi. Il y a quelque chose, voilà, de...
C'est le bateau des héros ou c'est le bateau d'Orphée qui va vers les enfers?
Il y a des deux, hein, parce qu'il y a de ça. Il y a du retour à Royan qui est aussi terrible dans ce film, qui est le début de la fin aussi pour...
Ce que je vais vous demander, c'est vous croyez aux fantômes?
C'est toute la question. Moi, je sais pas si je crois aux fantômes, mais je crois en des choses. Par contre, je crois énormément...
Vous sentez en tout cas des choses que peut-être moi, je ne vois pas, ou des gens qui nous écoutent ne verraient pas?
En tout cas, je...
Quel rapport vous avez avec l'invisible?
Ben justement, j'allais dire, moi, je crois dans le cinéma. Et le cinéma, c'est le lieu des fantômes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je crois dans le pouvoir du cinéma et je crois dans sa force mystique.
Ouais, c'est-à-dire que vous montrez pour montrer ce qu'on ne peut pas voir, finalement.
Exactement.
Moi, j'aime bien ce genre de paradoxe, donc ça
me va. Oui, et il y a quelque chose qui, quand on fait un film, où là, je pense que les choses deviennent intéressantes quand elles nous échappent à un moment. Et que, par exemple, d'essayer de filmer l'invisible, d'essayer de trouver une sorte de grâce, de quelque chose de miraculeux, de mystique qui se produit, il faut le travailler. On travaille pour arriver à cet état, mais il y a toujours quelque chose qui échappe et qui est inexplicable dans le cinéma, et c'est ça qui en fait un art magnifique, selon moi.
Le fantastique, c'est un genre, mais je ne suis pas sûr que votre film soit un film de genre dans ce sens-là. Je me demande si ce n'est pas plus un film de genre dans le sens de... D'ailleurs, vous en avez un peu parlé tout à l'heure quand vous parliez de masculinité, mais de gender. Est-ce que vous avez voulu développer aussi un regard masculin?
Oui, bah c'est un film qui, pour moi, qui parle de ça. Donc c'est un sujet du film, de parler de ce que...
J'ai donc un peu compris.
Oui, totalement, de la masculinité et de la virilité, de ce que c'est. Et c'est tout le travail que j'ai essayé de faire aussi dans la manière de filmer ces garçons dans le film. D'en faire à la fois des objets de désir, mais des objets de danger, des corps à la fois violents.
Et pour vous, c'est l'homme de 2023 que vous... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas, une image moderne, contemporaine plutôt, de ce qu'est un homme aujourd'hui, de ce que devrait être un homme.
Je vais me faire taper sur les doigts si je dis des choses comme ça, parce que
moi je dirais
c'est moi j'essaye de construire des personnages qui existent selon moi et qui mais ce qui est intéressant, c'est là où on va les pousser dans des contrastes et des choses comme ça. Si c'est juste pour poser des gens et dire ah ben voilà, c'est ils sont comme ça, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est à la fois des mecs qui ont une grande virilité, quelque chose d'assez violent, et en même temps c'est des garçons qui ont où il y a un truc très érotique, ils sont filmés de manière érotique dans les corps, dans les choses, et ça c'est, finalement c'est quelque chose qu'on voit assez peu au cinéma, c'est ça qui m'intéresse.
On va écouter un peu de musique, vous aimez la musique?
J'adore.
Je sais pas si vous aimerez celle-là, j'espère, en tout cas on ne s'est pas concerné avant. Don't let me down. Alors, c'était de la très bonne musique, ça s'appelait Don't Let Me Down. Et je sais pas si je suis un très bon improvisateur, si ça s'entend ou pas. Et c'était chanté par Gus Dapperton et Benny. Et normalement, il y avait une virgule, mais c'est pas grave. On est toujours avec Simon Rett, qui est réalisateur et co-scénariste de Nos Cérémonies. Le titre est très beau d'ailleurs, Nos Cérémonies.
Ouais.
Vous l'avez trouvé à quel moment?
Au tout début, en fait, j'ai eu cette idée assez vite, ouais, le titre.
Vous imaginez, quand vous avez commencé à l'écrire, j'imagine, vous avez à peine 30 ans, vous n'avez même pas 30 ans, on peut le dire, que vous en parleriez encore aujourd'hui, 2-3 ans après, quand vous avez commencé à le faire?
En vrai, ça a pris tellement de temps que... Je dis ça a pris tellement de temps, mais c'est que ça s'étale sur 5 ans. Moi, j'ai commencé à écrire ce film il y a 5 ans. Du coup, j'imaginais déjà que si j'arrive à le faire, ça serait magnifique, ouais.
J'ai lu dans les Arocs qu'à 7 ans, vous aviez commencé à filmer, tiens, votre petit frère,
ouais.
Comme quoi, hein, qui jouait dans vos courts-métrages. À quel moment vous avez su que vous vouliez devenir cinéaste?
En fait, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu envie de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai commencé à filmer, à faire des petits films dans mon coin, des petits trucs, et j'ai jamais eu trop envie de faire autre chose.
Et vous saviez que c'était un métier?
Je me disais, je veux faire des films comme les cinéastes, enfin comme les gens que je voyais faire des films, donc que je regardais en cassette, quoi. Mais sans intellectualiser, de me dire, alors je veux être réalisateur, machin, je pense que c'est venu après.
Mais vous avez quelqu'un dans votre famille qui fait des films?
Non. Non. En fait, mes parents, mon père m'a montré des films quand j'étais petit, ouais.
Oui, non,
ouais.
Mais il faisait des films avec son caméscope, il n'est pas connu.
Ah non, pas du tout, non, il ne faisait pas de films. Oui, ah non, j'ai cru qu'il m'avait montré des films. Non, personne ne faisait de cinéma.
Dans votre
non,
famille.
Personne. Ouais.
Donc c'est pas évident dans ces cas-là, des fois aussi, de s'autoriser à...
Ah bah c'est sûr, et après là, pour le coup, j'ai eu la chance de parents qui m'ont dit, nous on n'y connaît rien dans ce monde, mais par contre, si tu as envie de le faire, on va te soutenir, et tu vas y aller, et... Voilà, c'est ça aussi la chance que mes parents m'ont encouragé là-dedans. Ils m'ont jamais mis de barrière.
Et votre petit frère, il l'a vu ce film?
Oui, il l'a vu.
Alors,
il l'a vu à Cannes.
Il en a pensé quoi?
Il a aimé. Moi, j'étais stressé, du coup. Je me disais,
oui, j'imagine.
Soit il va aimer, soit je vais devoir partir en courant de la projection. Mais il a aimé, ouais.
Ça a été difficile de monter un premier film quand on n'est pas du milieu?
Monter, finalement, en fait...
Vous aviez fait des courts-métrages,
c'est ça. C'est, en fait, c'est vraiment les courts-métrages qui ont été... Moi, j'ai fait beaucoup de courts-métrages autoproduits, où j'ai trouvé de l'argent tout seul. Et très
c'est
peu
quoi,
de...
là, on va braquer mamie?
Au début, on a braqué toutes les familles, quoi. Quand on faisait les films en groupe, on a demandé de l'argent à tout le monde. Et après, ça a été de galérer à faire des films. Du coup, j'ai beaucoup galéré sur mes courts, mais qui m'ont permis en fait de faire ce long, vu que j'avais beaucoup de courts-métrages à montrer, de dire j'ai fait des choses avant, je suis capable de faire un film, je crois.
Et donc, ça veut dire que vous avez trouvé de la production normale?
Le financement s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance, justement, j'avais fait mon premier moyen-métrage qui était en festival, et ma productrice l'a vu, et elle m'a abordé, du coup, à ce festival en me proposant de produire mon film suivant, et ça se fait comme ça.
Il y a un an, vous étiez à Cannes, à peu près, à cette époque-là. Vous étiez à la Semaine de la Critique, sélectionné pour un premier essai, c'est pas mal. Vous y êtes retourné cette année?
Non.
Vous n'aviez pas envie?
Non.
Pourquoi? Ça a été terrible?
Non, ça n'a pas été terrible, mais j'ai pas de. Enfin, c'est quand même des lieux particuliers, Cannes et tout. Moi, j'étais.
Je suis jamais allé, donc vous pouvez raconter nous.
Non, c'est magnifique pour un film, pour une première fois. Voilà, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Après.
C'est quoi? C'est le moment où on se dit oui, j'avais raison. Aussi, c'est quand même, j'imagine, ça doit vous conforter.
Je pense qu'on le sait, il faut se le dire souvent qu'on a raison, parce que sinon on écoute les autres et ça, on fait pas ce qu'on veut.
Même si on veut pas être cinéaste, il faut toujours se dire qu'on a raison. Vous avez raison.
Il faut se dire on a raison, mais avoir quand même l'oreille pour les gens en qui on a confiance et qui sont autour de nous. Et voilà, non, Cannes, c'était incroyable pour le film, c'est magnifique. Après, voilà, c'est des lieux où il se passe tellement de choses, c'est un peu violent, quoi. Voilà.
C'est un Barnum, comme il y a aussi le côté fête des cinéphiles, non ?
Voilà, il y a le côté fiesta, tout ça. Après, bon, moi, c'est moins mon univers, tout ça.
Il y a des films que vous auriez aimé voir qui sont cette année quand même.
Ouais.
Vous avez quand même suivi, enfin, peut-être que vous n'avez rien suivi, que vous
en foutez.
Suivez votre voie.
Je suis à fond tous les films qui sortent. Il y a plein de films que j'avais super envie de voir à Cannes.
Alors, vous demander lesquels?
Le film de Jonathan Glazer, Zone of Interest, et le film de Justine Triet qui a gagné. J'avais trop envie de... La Palme, ouais. Ça, j'ai hâte de le voir.
Qui occupe Twitter depuis deux jours à cause de son discours.
Je vais le voir, formidable. Ouais, ça, j'ai très envie de le voir. Et ouais, plein de. Le film de Jean-Bernard Marlin aussi, Salem. Il avait fait Scheherazade, qui était un super film. J'ai hâte de voir.
Ils ont quoi ça en commun, ces gens-là, ces gens qui vous intéressent?
Tous, je sais pas ce qu'ils ont en commun, en tout cas c'est toujours c'est des univers, en fait c'est plutôt de voir des gens qui se développent de film en film et qui ont un univers à eux, et c'est ça je pense qui intéresse toujours.
Vous êtes devenu cinéaste donc comme ça sur le tas, j'aime pas du tout, c'est pas très joli comme expression, mais vous avez appris ensemble, je crois que vous avez pas fait d'école, hein,
Non, je suis allé à la fac à Paris, hein, mais oui, j'ai vraiment appris en faisant des films, c'est-à-dire depuis mes premiers courts-métrages que je bricolais tout seul, voilà, et après de m'entourer, de découvrir au fur et à mesure, mais j'ai pas eu de formation.
Je viens de vous en faire parler pendant une demi-heure, mais nos cérémonies pour vous, là maintenant, c'est fini, c'est le passé, vous l'avez refermé, vous êtes déjà dans l'après ou...
Ouais, là, je pense que je viens tout juste, en fait, de vraiment le lâcher, là, il y a quelques semaines.
Et vous allez faire quoi maintenant?
Là, j'écris déjà, en fait, depuis plus d'un an, un nouveau film. Du coup, j'ai ce projet de nouveau film.
Il y aura des points communs, ça sera différent?
Il y a des points communs, ouais. Je pense que. Je m'étais dit, ça va être très différent. Et en fait, on se rend compte que c'est dur. Enfin, l'univers est toujours là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me rappellent toujours à où je suis rappelé aux mêmes choses. Mais en même temps, c'est un film qui est très différent et où je quitte quand même pour la première fois l'adolescence. Passage à l'âge adulte, de filmer des jeunes, ça c'est des choses que j'ai beaucoup fait dans mes courts-métrages et où nos cérémonies c'était un peu l'aboutissement de tout ça. Et pour la première fois, là,
vous avez envie de filmer des gens qui travaillent, qui mettent un costume le matin.
Voilà, c'est ça. Non, mais il y a un peu de ça en plus, mais de filmer, de grandir aussi avec mes personnages, quoi, je pense.
C'est difficile?
Non, c'est agréable.
C'est agréable, hein?
Ouais, c'est bien, je pense.
Vous retravaillerez avec les frères, là j'ai oublié leur nom, bien
les
sûr,
frères
comme d'habitude, ouais.
Ouais, bah pourquoi pas. Oui, bien sûr, j'aimerais bien.
Et voir grandir, justement.
Ça serait beau. Après, ce qui est compliqué, ce que je leur dis, c'est que vu que c'est deux frères, je vais être obligé de faire des choix parce que je vais pas faire des films sur deux frères. Voilà, faut que c'est bon, j'ai tué le frère.
Et ben voilà. On vous voit quand alors? On ne sait pas, là vous travaillez, vous êtes en développement, dans 2-3 ans peut-être?
Si tout va bien, si dans 2-3 ans on reparle ici, c'est que tout s'est très très bien passé, que ça allait très vite. Ouais.
Et j'ai vu qu'en attendant, vous continuez de faire des courts-métrages, vous?
En fait, c'est juste moi, j'ai envie de faire des films.
J'ai l'impression que c'est comme de s'entraîner, quoi, pour vous, de faire des courts-métrages.
C'est plus que s'entraîner, c'est que c'est un besoin, quoi. C'est-à-dire, si je fais pas de film, je fais rien, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est que ma vie n'a pas trop de sens, quoi. Du coup, je suis obligé de faire des films, des trucs.
Bon, écoutez, on va vous laisser aller faire des films, hein. Et il est 18h29, c'est l'heure de laisser en tête. Merci, Simon.
Avec grand plaisir.
D'être venu, parce qu'en plus, votre film n'est plus vraiment à l'affiche, donc c'était vraiment très sympathique. Qui est de votre part.
Il y a encore, rattraper.
Je le redis, il y a deux salles où on peut le voir, à Paris encore jusqu'à mercredi, puis après on ne sait pas, on verra ce qui se passera mercredi matin. Mais courez-y demain si vous ne savez pas quoi faire. Voilà, c'était Simon Rett, réalisateur que scénariste de nos cérémonies. C'était La Relève, produite présentée par Christophe. La réalisation était assurée ce soir par Pablo et on pense fort à Alison qui avait un empêchement. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Vous retrouvez là le programme musical de Radio Campus Paris. Et tout ce que je peux vous dire sur la soirée, c'est qu'à 21h, il y aura Atonal Café. Voilà, bonne soirée.
nada. And I will give everything just to